Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les prêtres, il fut un temps pas si lointain que cela où le prêtre était une figure, un notable, un des personnages qui comptait dans un village ou dans une ville. Aujourd'hui, être prêtre, c'est parfois une honte, peut-on entendre comme remarque de la part de certains d'entre eux, une honte, tant les scandales éclaboussent ces derniers, qu'ils soient simples prêtres, évêques ou cardinaux. Alors, pour tâcher de rétablir un peu la balance, cette émission au cours de laquelle vous avez la parole, une émission pour leur dire votre affection et gratitude quand l'heure est parfois à la chasse aux sorcières. Prêtre, c'est serviteur de Dieu, c'est le thème donc de cette émission sur un format un peu particulier, émission donc direct auditeur au cours de laquelle vous avez la parole, chers auditeurs. Autour du plateau, Grégoire Zobler, vous êtes prêtre, vicaire de l'ensemble paroissial de la cathédrale de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Guillaume Loz, vous êtes prêtre et curé de la paroisse Saint-Nicolas et du Sacré-Cœur à Toulouse, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et on espère que va arriver dans quelques instants votre vicaire général, donc prêtre évidemment lui aussi, et vicaire général, comme je viens de le dire, du diocèse de Toulouse, Hervé Guignard. C'est une émission donc sur un format un peu particulier. Il y a un teasing qui a tourné à l'antenne tout au long du week-end pour préparer nos auditeurs. Vous avez donc la parole, chers auditeurs, dans ce contexte difficile, douloureux. Monseigneur Le Gall, dans un mot récent, rappelait combien tout cela était douloureux, non seulement pour les évêques et les prêtres, mais aussi pour tous les fidèles. On le citera tout à l'heure. Vous avez la parole pour répondre à quelques questions. Alors, je vous en propose deux. On va essayer, entre autres, de faire un peu de pédagogie. Comme je disais à mes deux invités, l'idée, c'est de découvrir un peu les prêtres aussi, côté prêtre. Alors, pour vous, quelle est la mission du prêtre? Ça sera la première question que je vous poserai. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Quelle est la mission du prêtre? Vous pouvez nous appeler au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Si on devait commencer cette émission, est-ce que vous avez des témoignages de sympathie, de gratitude, d'attention de la part de vos fidèles, d'amis, en ces temps un peu de tempête, Grégoire Zobler?
Oui, toujours. Les fidèles, je crois, de manière habituelle, enfin en tout cas ceux qui ont la foi, etc. Et ben ils aiment leurs prêtres et ils savent ce que c'est et ils savent le besoin qu'ils en ont, et du coup on est soutenu de ce côté-là. On n'est pas trop calomnié, mais ils sont attentifs à nous tout de même, et c'est plaisant de savoir que on est soutenu par des frères. Oui, tout à fait.
Guillaume Loz, qu'est-ce que vous répondriez sur ce sujet?
Oui, les gens sont proches et moi, j'ai pas d'écho négatif. Je me sens pas harcelé et attaqué tout le temps. Et je trouve que les gens sont compréhensifs et ils sont reconnaissants de notre présence. Ils voient qu'on fait beaucoup de travail pour eux.
Est-ce que vous diriez du coup qu'il y a une différence entre, on va dire, l'intérieur et l'extérieur de l'Église? Est-ce que peut-être vous disiez en préparant votre émission, vos fidèles, ils vous connaissent et ils vous apprécient, et à l'extérieur, peut-être qu'ils sont plus enclins à être attentif au bruit et aux scandales médiatiques?
Peut-être que ceux qui ne connaissent pas de l'intérieur et qui ont, qu'en retour, ce que disent les médias, sont choqués légitimement et du coup assimilent beaucoup de choses et qu'ils ont du mal à faire peut-être la part des choses. Mais après, il y a peut-être aussi des fidèles qui vivent ça très douloureusement et peut-être qu'ils n'osent pas dire alors que c'est difficile pour eux. Peut-être pour nous critiquer ou bien au contraire pour nous soutenir, mais c'est vrai qu'il reste assez discret quand même.
Vous avez de la chance, parce que c'est vrai que ne serait-ce qu'à cette radio, il en passe des prêtres et parfois ils nous rapportent des choses plus douloureuses. J'ai souvenir d'un dominicain récemment qui racontait qu'il s'était fait insulter dans la rue. Quelqu'un qui travaille près d'ici, qui est un autre prêtre, et qui disait qu'il avait été insulté aussi dans un supermarché. Bref, l'ambiance est quand même difficile. Alors j'aimerais qu'on commence cette émission, avant de donner la parole à quelques auditeurs, par rappeler ce qu'est le prêtre. Voilà, essayer de faire un petit peu de pédagogie, parce que je me disais que dans le contexte actuel, on finit par oublier, entre autres une chose, c'est que c'est un appel, et que c'est Dieu qui a en fait l'initiative de la prêtrise, d'une certaine manière. On pourrait même remonter assez loin. Grégoire Zobler, qu'est-ce que vous diriez sur le sujet de l'appel, qui, pour beaucoup d'entre nous, peut rester mystérieux, et parfois la difficulté de comprendre cet appel n'aide pas toujours à être juste ou tout à fait ajusté à votre sacerdoce?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que l'appel, c'est le fondement déjà de notre sacerdoce, enfin de notre vie donnée au Christ dans le sacerdoce. Et puis c'est aussi le fondement de notre joie. Vous savez, dans l'Écriture, on dit que nous on est prêtres selon l'ordre du sacerdoce de Melchisédek. Et Melchisédek, c'était un homme sans généalogie ni rien, etc. Et son sacerdoce, il ne venait pas de mérite personnel ou de famille transmis de personne en personne. Il venait d'un appel gratuit de Dieu. Et c'est très beau, nous, de savoir dans nos existences personnelles que le Seigneur nous a appelés directement, personnellement, avec amour. Justement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, librement. Et du coup, comment ça se manifeste souvent? Ça se manifeste, pour moi, je dois dire que ça s'est manifesté d'abord à travers la médiation de l'Église, à travers un prêtre, une figure de prêtre qui m'a touché quand j'étais jeune, je dois dire, au service de l'hôtel, et je me souviens, il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a dit « Toi, plus tard, tu seras un bon prêtre ». Et la question est rentrée dans mon cœur à ce moment-là.
Ce qui était quand même audacieux, parce que c'était pas une forme interrogative en plus.
Non, ce n'était pas une forme interrogative et c'était justement surprenant. Mais quand on a 6 ans, on pense à 1000 choses, mais voilà, il n'y a pas. On reste ouvert à cette possibilité-là. Et puis après, le Seigneur, vous savez, dans ma vie, moi, il m'a appelé avec beaucoup de douceur en tirant un petit peu le fil de mon cœur par attraction. Voilà, dans la prière, dans la rencontre, dans le service des scouts, de personnes handicapées. J'ai senti que le bon Dieu me faisait découvrir qu'il y avait plus de joie à me donner entièrement au service de mes frères qu'une autre voie que j'aurais pu prendre. Voilà.
Alors on va prendre une première auditrice, en l'occurrence c'est Marie-Hélène qui nous appelle de Rabastens de Bigorre, c'est donc dans les Hautes-Pyrénées. Marie-Hélène, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Alors vous aviez un témoignage à nous donner, alors est-ce que vous répondez à la question de quelle est la mission du prêtre selon vous, ou est-ce que vous vouliez nous partager autre chose?
Alors en fait, dans les deux questions, je ne les ai pas notées, je n'avais pas de papier à ce moment-là. Mais
c'est
fait,
pas grave, on vous garde quand
dire,
même, allez-y.
Ça répond aux deux questions que vous aviez proposé de répondre, si je puis me permettre. Alors de par ma famille, le prêtre, quand il venait dîner à la maison, la vie de famille, ça faisait du bien que le prêtre vienne, c'était sympathique et détendu. Moi j'ai eu des amis, dont un ami que je fréquentais, mais voilà, c'était vraiment une belle amitié où on pensait éventuellement au mariage, et le Seigneur l'a béni de son appel, et ça n'a pas été spécialement une offense pour moi. J'ai vraiment vécu ça comme une grâce de savoir que le Seigneur aimait ce prêtre, il l'avait choisi. Et puis plus tard, le prêtre auprès des jeunes, il se donne de la peine, de la prière, du cœur, de l'organisation, longtemps à l'avance, pour que Jésus puisse les toucher. Donc moi, j'aime beaucoup, je suis très touchée, en tant que maman aussi également, parce que nous avons beaucoup d'enfants, et ça a toujours été, et c'est encore un relais pour nous, les parents cathos. Ils ont bénéficié et bénéficié encore de nombreux camps, en leur belle présence, joyeuse et respectueuse. Et le sujet de la pédophilie qui traîne depuis quelques temps, pour nous, de toute façon, nous on l'a vécu il y a 25 ans par un parent non catho, un proche non catho. Donc de toute façon, moi ça m'avait rendu extrêmement vigilante sur le sujet de ça. Et donc de toute façon, les enfants étaient eux-mêmes attentifs et vigilants. Et donc il ne s'est jamais rien passé, ça je vous l'ai précisé. Et puis d'autre part, la Providence a toujours veillé quand j'allais me confesser. Il y avait eu des fois des aveux qui ne sont pas toujours faciles à formuler, à annoncer, voilà. Et moi j'étais très touchée d'une confession où je suis tombée sur le prêtre, quelle que soit sa réputation, on s'en fiche. C'est arrivé très très souvent, mais une fois particulièrement. Tout le temps, ça a été l'expérience que finalement l'Esprit Saint passe par le prêtre à partir du moment où il est dans son poste de prêtre confesseur. Moi, j'ai vécu ça comme j'ai eu des mots très pratiques, très justes pour m'aider à régler des problèmes ou des tentations énormes, et des choses très pratiques. C'était vraiment super.
Eh ben, merci beaucoup, voilà. Marie-Hélène, de nous avoir appelé pour donner ce premier témoignage pour cette émission qui essaye de parler avec justesse des prêtres. On accueille en plateau Hervé Guignard, donc soyez le bienvenu, prêtre et donc vicaire général du diocèse de Toulouse. Je vous dis quand
bonjour.
Même bonjour. Dans cette première partie, le propos est donc d'essayer de redire ce qu'est la figure du prêtre. On a commencé donc par redire que c'est Dieu qui a l'initiative de la prêtrise, hein, en appelant, et Grégoire Zobler racontait avec beaucoup beaucoup de simplicité et la manière dont ça s'était passé avec lui. On dit aussi souvent que l'image, que le prêtre est à l'image du Christ, et parfois, enfin, si j'ai bien compris, c'est aussi ce qui justifierait le célibat. N'est-ce pas là une charge fort lourde que d'avoir comme mission d'être particulièrement, si j'ai bien compris, configuré au Christ serviteur, Hervé Gagnard?
Oui, alors c'est, non seulement c'est une image fort lourde, mais à mon avis, à vue humaine, c'est impossible. Enfin, je veux dire, certes, dans la théologie, dans les écrits, donc on enseigne que le Christ, par exemple, quand il célèbre, et célèbre une persona Christi, donc en la personne du Christ, en tenant lieu et place du Christ au sein de l'assemblée, qui célèbre l'Eucharistie, je pense qu'on... Comme prêtre, en tout cas, moi, je ne me vis pas en me disant chaque matin, je suis l'image du Christ. Je demande la grâce de l'être, mais c'est d'abord un don du Seigneur et un don qui nous échappe largement d'être celui qui tient la place du Christ auprès de ses frères.
Mais alors, si vous deviez repréciser un petit peu ce que ça signifie dans ces cas-là, quand on dit une persona Christi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a là quand même quelque part un mystère dont le prêtre est porteur et que lui, comme l'assemblée, comme le peuple des fidèles, doit essayer de vivre comme tel.
Cela dit quelque chose de ce qui se joue quand, par exemple, l'Eucharistie est célébrée, hein, que c'est vraiment le Christ qui se rend présent à l'assemblée. Il se rend présent par ce qu'on appelle des médiations, par des... Ce n'est pas tout à fait juste ce que je dis, mais par des moyens, et en particulier le prêtre célébrant et tenant place du Christ au sein de l'assemblée, qui, notamment dans la célébration de la prière eucharistique, vous savez, ce moment-là où le prêtre consacre le pain et le vin, il tient lieu et place du Christ au sens où ça veut dire que c'est vraiment le Christ qui est là, qui se rend présent au milieu de l'assemblée.
Ça dit
toute la proximité du Christ, hein.
Grégoire Zobler, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non. Non. Enfin, il faut pas être choqué quand on dit que l'identité du prêtre se trouve c'est l'identité même du Christ, parce que c'est vrai de tout chrétien, mais sous des modes particuliers. Tout chrétien doit être alter Christus, ipse Christus, un autre Christ, le Christ lui-même. Sauf que pour le prêtre, cela se réalise son identité de manière particulière, de manière sacramentelle en fait, par la configuration. Dans le sacrement de l'ordre à l'image du Christ bon pasteur. Voilà. Et du coup, il est sacramentellement, c'est-à-dire qu'il est le signe, un moyen, comme disait le père Hervé, dérisoire, hein, parce que bon, on est des pauvres hommes, mais le signe quand même visible et sensible du Christ parmi ses frères, du Christ pasteur parmi ses frères. Mais tout chrétien doit être cette image-là, mais pas sous le même mode. Nous, on est sous le mode sacramentel au niveau du sacerdoce ministériel.
Alors, c'est vrai que comment dire, côté simple fidèle, peut-être est-ce dû aussi donc à ce sacrement et puis à votre célibat, mais il y a aussi comme un mystère en fait qui entoure un peu la personne ou la figure du prêtre. Est-il normal en fait qu'il y ait un peu ce mystère? Alors, on dirait que toute vie chrétienne est un mystère, hein, la célébration de la messe par excellence, comme vous dites. Est-ce que vous le sentez, ça? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes porteur d'une vocation qui est assez mystérieuse, Guillaume Loz?
Mais c'est un peu étonnant parce que oui, ça nous dépasse en fait, et il y a quelque chose de plus grand que nous, et on sait que, comment dire, le Seigneur, on peut intuiter, on peut le chercher, mais il nous a choisi pour être témoin de lui, quoi. Enfin, il a envoyé le Christ qui nous révèle que Dieu nous aime, que le Père nous aime, il donne son esprit, et nous on est là pour rendre le Christ présent. Et c'est un mystère dans le sens où, comme dire, déjà une vocation, c'est long, c'est un long chemin, c'est un peu inattendu, aucun n'a la même parmi nous, je pense. Moi, je vois que déjà la foi, c'est un mystère, c'est un don. Alors, c'est une grâce, il faut y répondre, mais moi, je vois, on a reçu la foi de nos parents, qui a une foi vivante, pourtant on est six enfants, chacun on le vit à notre façon. Et moi, je vois, petit, j'avais le désir d'être prêtre, mais enfin, je me suis posé la question comme ça, comment on veut être aumônier, militaire, pilote. Moi, j'avais ça en tête. Et après, ça s'est éloigné. Et en fait, c'est la question. J'ai perdu une petite sœur. Il y a eu beaucoup de questions, une grande recherche du sens de ma vie, la question de la souffrance, du bonheur, qui était mêlée. J'avais envie de faire plein de grandes choses. Et finalement, ça s'est éclairé. Je me suis rendu compte que c'est le Seigneur qui donnait un sens. Enfin, il y avait une espérance que c'est pas lui qui a pris ma petite sœur, qu'il est là pour nous aider dans les difficultés. Et du coup, Moi, c'est ça que j'ai voulu transmettre, quoi. C'est le Seigneur nous aime, et c'est lui qui nous aide dans les épreuves, et ça vaut le coup de tout donner pour lui. Voilà, et après, moi j'ai pris le temps, en fait, parce que le premier événement décisif, c'était qui m'a fait rentrer au séminaire. Je suis rentré en 98 en année discernement, et j'étais ordonné en 2012. Donc, vous voyez, j'ai pris du temps parce que j'étais pas sûr du célibat, j'avais peur de fuir un peu le monde et j'ai eu besoin de faire une coupure, de travailler. Donc
on comprend en tout cas que c'est un chemin, voilà, c'est un appel mystérieux et puis c'est un chemin qui prend du temps. On a Christian de Tarbes qui est avec nous par téléphone.
Bonjour monsieur Pollard.
Bonjour. Alors dites-nous pourquoi vous nous appelez et quel était.
Remercier ceux qui m'ont initié à Dieu. Voilà, je suis natif de Fleury-les-Aubrais, au nord d'Orléans, une banlieue qui était rouge. Et il y avait un curé, le père Guy Sampeau, et deux prêtres, Henri Rivière, dit Riton, et Marcel, dont je ne me souviens malheureusement pas le nom, qui lui était prêtre ouvrier, mais qu'on voyait moins quand on était gosse, puisqu'il s'occupait plutôt des adultes, si vous voulez. Il était à l'Action catholique ouvrière et des choses comme ça.
Alors pourquoi est-ce qu'ils vous ont marqué? Dites-nous pourquoi vous nous appelez et qu'est-ce que vous vouliez nous partager.
Ils étaient près du réel, Emmanuel. Ils étaient près des gens. Ils n'étaient pas, si vous voulez, ils étaient réputés curés rouges, forcément une banlieue communiste, alors qu'ils n'étaient pas spécialement aux rouges, mais simplement ils étaient proches des gens, quoi. C'était l'évangile à la portée des gens, des années 60, 70, 80, quoi.
Eh ben, merci beaucoup.
Du rituel sacramentel, vraiment, je dirais pas exacerbé, mais ils étaient proches des gens. Et je voulais remercier André et Jean-Michel de prêtres de Tarbes.
Eh ben merci beaucoup de nous avoir appelés pour nous donner votre témoignage. Pour finir cette première partie, j'aimerais que vous nous éclairiez. Je ne sais pas qui d'entre vous va le faire. On a l'habitude d'entendre que la mission du prêtre, c'est d'enseigner, sanctifier et conduire ou présider. Est-ce que vous pouvez réexpliquer, Hervé Guignard, le sens de ce triptyque? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces trois mots, enseigner, sanctifier et présider?
Alors, derrière ces trois mots, donc ça rassemble un peu toutes les activités, je dirais simplement, du ministère de prêtre, de sa mission. Alors, on peut les séparer en même temps, on pourrait les prendre ensemble, mais donc, pour faire simple, d'abord tout ce qui est du registre de la sanctification, donc je vais commencer par là. Donc, c'est l'activité à laquelle on pense le plus spontanément pour le ministère presbytéral. Ça concerne notamment pour le prêtre la célébration des sacrements et en premier lieu la célébration de l'Eucharistie, puis la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne, baptême. Alors la confirmation est réservée à l'évêque, l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation et donc l'onction des malades et de présider aussi le sacrement de mariage.
Donc ça veut dire qu'on pourrait résumer en disant que le premier rôle du prêtre, c'est de rendre apparent sur terre ces signes que sont les sacrements, en fait. D'union entre Dieu et les hommes.
C'est de les célébrer avec l'Assemblée, au service de l'Assemblée, au service des chrétiens, pour leur propre vie baptismale, leur vie de baptême, leur vie de foi.
Alors ça, c'est le premier pied.
C'est le premier pied. Alors, je vais dire le second, c'est tout ce qui relève de l'enseignement. Et peut-être aujourd'hui, alors, c'est peut-être le plus important, peut-être aujourd'hui finalement, dans la vie de l'Église, hein, ce qui se concerne l'enseignement et la prédication. Je pense que c'est aussi une des fonctions du prêtre. Donc, c'est d'aider une communauté chrétienne, des chrétiens à grandir dans la foi, aussi par la catéchèse, par l'explication de la foi, l'enseignement de la foi.
Et vous dites que c'est peut-être le plus important aujourd'hui, pourquoi?
C'est peut-être le plus important
parce qu'on part de
très loin et puis on est appelé à être une église missionnaire, c'est-à-dire à aller à la rencontre de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et donc il faut trouver les moyens pour leur parler du Seigneur. Donc il y a toute cette dimension de la prédication qui aussi est importante dans le ministère de prêtre. Et puis après, il y a la fonction de tout ce qui leur relève de la présidence, du service, de la, alors qui va, euh, qui va s'exercer selon les fonctions que reçoit le prêtre. Hein. Quand on est prêtre, on a des missions, on a des charges qui sont pas forcément les mêmes et qui font que ce service de la communauté, cette gouvernance de la communauté chrétienne va s'exercer de manière différente. Alors la plus connue est évidemment la charge de curé de paroisse, c'est-à-dire de responsabilité de la paroisse, et donc le prêtre, en étant curé, exerce une mission de gouvernance de la communauté paroissiale. Et dans tous ces aspects, que ce soit dans la pastorale, dans la manière d'envisager la mission de l'Église, là, dans une paroisse, que ce soit aussi sous le plan administratif, financier, juridique, enfin voilà, il y a toute une série de responsabilités qu'il exerce avec des laïcs, mais qu'il doit conduire, qu'il doit présider,
comme le nom l'indique. Et on sait que la charge peut parfois être lourde. J'ai cru comprendre que vous passez parfois un peu trop de temps à faire de la compta.
Oui, c'est ça.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver toujours pour cette émission. Donc, prêtre, c'est serviteur de Dieu. Je vous rappelle les deux questions qu'on vous adresse aujourd'hui, chers auditeurs. Vous avez répondu à cette question, hein, quel prêtre vous a marqué dans votre vie et pourquoi, mais aussi donc quelle est la mission du prêtre selon vous, parce que on peut le résumer par ces trois mots, on va dire, génériques, mais vous avez certainement d'autres manières de le présenter ou de le vivre.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Prêtre, c'est serviteur de Dieu, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Hervé Guignard, prêtre et vicaire général du diocèse de Toulouse, Grégoire Zobler, prêtre et vicaire de l'ensemble paroissial de la cathédrale dans cette même ville, et Guillaume Lose, prêtre et curé de la paroisse Saint-Nicolas et du Sacré-Cœur, toujours à Toulouse. Alors pardon pour ceux qui nous écoutent, on sait bien qu'il y a des prêtres ailleurs qu'à Toulouse, hein, mais par commodité, je le confesse, je me suis d'abord tourné vers ceux qui étaient proches de nous. Comme promis, dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on parle un petit peu des affaires et pas forcément pour les commenter, mais pour essayer de comprendre comment vous les vivez côté prêtre. Je redonne aussi, puisque mon directeur m'a fait signe tout à l'heure, le numéro de téléphone pour appeler et donner vos témoignages, c'est le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, le propos étant d'abord de nous nous dire quel prêtre vous a marqué dans votre vie et pourquoi. Monseigneur Le Gall récemment a publié, c'était le 19 mars dernier, la solennité de Saint-Joseph, un mot, disant entre autres « Nous avons le sentiment d'être submergés par une marée nauséabonde qui semble se répandre partout ». Je pense que cette phrase suffit à dire quelle est l'ambiance ou quel est le contexte. Quand on est un jeune prêtre comme vous, Grégoire Zobler, je sais pas, comment on prend tout ça ? On pourrait tout citer, hein, affaire Barbarin, Sodoma, et même maintenant plus proche de nous, même si ce n'est pas du tout du même ordre, hein, avec l'abbé Ronan de Gouvello, à qui on a demandé d'aller un peu se reposer. Comment on prend tout ça ?
Bah, vous savez, quand on vit le mystère de l'Église dans la foi aussi, on est tous en communion les uns avec les autres, ce qu'on appelle la communion des saints, et saint Paul dit si un membre souffre, toute l'Église souffre avec elle. Et du coup, évidemment, quand on entend une défaillance grave, objectivement très grave, de certains de nos confrères, etc., et puis de péchés de chacun des chrétiens et de nous-mêmes, habituels aussi, eh ben on ne peut que être blessé, évidemment, par ce qui arrive. Néanmoins, si on le vit comme ça dans la foi, mais dans la foi aussi, on doit le vivre, ce mystère, uni au bon Dieu aussi. Et du coup aussi de garder cette espérance théologale, de grandir chacun d'entre nous dans l'humilité, dans la pauvreté de notre nature. Le prêtre est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu, disait le curé d'Ars aussi, etc. Et puis de retourner un petit peu au centre. Vous savez, moi, depuis que j'ai été ordonné prêtre, donc ça fait trois ans dans 2 mois, du coup, avec au séminaire, 5 de mes confrères qui ont été ordonnés prêtres ont déjà quitté le sacerdoce. 5. Voilà. On le dit pas trop, on le sait pas trop. Voilà. Donc,
5 sur combien donc c'est...
Au séminaire, pendant les 7 années, je sais plus combien, ouais, on était, mais
bon,
déjà,
bref,
déjà
beaucoup,
ça,
ouais,
ça fait déjà beaucoup, évidemment. Et donc ça crucifie un petit peu notre cœur. Mais encore une fois, si on est prêtre, c'est prêtre pour Jésus, par amour pour lui, et c'est à lui qu'on a donné notre vie, et c'est vers lui qu'il nous faut nous retourner constamment, voilà, en nous unissant à lui, en nous appuyant sur lui, et en priant et en soutenant aussi nos frères, et en apprenant à être plus humble et plus prêtre.
Hervé Guignard, avant qu'on donne la parole à Jean-Claude et Chantal qui nous appellent depuis Tarbes, moi j'avais une question pour vous, parce que quand on est vicaire général, alors il faut peut-être rappeler en 2 mots ce que c'est que le vicaire général, c'est comme le super vicaire du diocèse, on imagine que l'église côté coulisses on la connaît, mais est-ce que aussi comme tous les fidèles, par exemple on pense au livre Sodoma, hein, qui même s'il a été, même si un certain nombre de spécialistes ou de vaticanistes ont pointé la calomnie ou les inexactitudes, il y a eu comme en fait un ébranlement quand même de découvrir certaines réalités au Vatican. Est-ce qu'aussi, de temps en temps, toutes ces affaires, ça vous questionne sur l'Église que vous servez ?
Ce genre d'affaires, je pense qu'on les prend comme tout le monde. On les prend, enfin, pour être un peu familier, je dirais qu'on les prend en pleine poire, on les prend de face, quoi. C'est des révélations, des histoires qui, bon, une fois qu'elles sont posées de cette manière-là, qu'il faut accueillir, qu'il faut assumer. Pour ma part, ce genre de révélations, moi, m'interroge d'abord sur, en tant que vicaire général, sur la manière de conduire l'Église, d'accompagner les prêtres dans leur sacerdoce, comment leur donner les moyens de vivre sereinement, de manière épanouie, leur célibat sacerdotal. C'est ça. Est-ce que vraiment l'Église se donne les moyens pour pouvoir accompagner les prêtres, et a-t-elle les ressources nécessaires, notamment quand l'un de ses frères, de ses prêtres se trouve en difficulté.
C'est un de vos premiers réflexes, c'est de vous demander, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, c'est ça ?
Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les prêtres soient autant qu'il leur sera donné, autant qu'il est possible, d'être fidèles à leurs engagements. Tout à fait.
On va prendre Jean-Claude et Chantal par téléphone. Je voulais juste citer la fin quand même du mot de Monseigneur Le Gall. Une fois de plus, j'ai bien conscience que c'est l'archevêque de Toulouse. Il y a d'autres évêques dans la région, mais ce qu'il dit probablement rejoint ce que peuvent dire d'autres. Et il finissait quand même son mot en disant « Merci à vous tous, prêtres, diacres, laïcs et religieux, qui par la grâce de Dieu honorez le beau nom de fidèles. » Fidèles étant entre guillemets. Alors Jean-Claude et Chantal, vous nous appelez de Tarbes. Et bonjour d'abord.
Bonjour à tous et bonjour à nos prêtres.
Voilà, vous vouliez nous appeler donc pour, comme les autres, comme Marie-Hélène et Christian, nous dire votre affection pour les prêtres et nous rapporter un témoignage d'une amitié avec un prêtre, je crois.
Oui, d'une amitié qui a duré 18 ans presque, quand nous habitions dans le Nord. C'est un prêtre qui nous a suivis bien avant la naissance de notre fils. Il a baptisé notre fils et... Quand on dit que le prêtre est un serviteur, il était plus qu'un serviteur, parce qu'il nous a suivis comme un père spirituel, hein, comme un père spirituel pendant toutes ces années, bien sûr jusqu'à son décès. Et je peux vous dire qu'à n'importe quel moment, si nous avions un souci, un problème dans le couple, avec l'enfant, avec notre fils, nous l'appelions à n'importe quel moment. Il était en réunion le soir et nous appelait même des fois 22h30, 23h en rentrant, et on pouvait encore s'expliquer avec lui. Alors, nous, on est perturbés que tous les médias, que ces médias, excusez-moi, arrêtent de, toujours dire que les prêtres ceci et les prêtres cela, ils sont ceci et cela. J'ai toujours la pédophilie.
Attendez, juste, excusez-moi, il faut que vous parliez devant le combiné, mais votre femme ne peut pas parler en même temps. Voilà, on est quand même en direct. Alors, finissez votre phrase.
Oui, alors donc, nous, on est très perturbés par les médias, parce que de toute façon, les médias, que ce soit dans n'importe quel truc, on critique les prêtres, mais on ne voit pas, les médias ne parlent pas de tous ces prêtres qui vont jusqu'au dernier souffle de leur vie, hein, qui, à 90 ans, servent encore en donnant encore la messe pour aider le prêtre de la paroisse, reçoivent des laïcs. Alors, c'est perturbant. Et puis, critiquer le Saint-Père comme on le fait parce qu'il a dit « je ne peux pas prendre ma décision actuellement », eh bien, il a bien fait, parce que lui est un vrai serviteur.
Et tout ce qu'il dit,
croyez-moi, c'est très réfléchi et il ne parle pas n'importe comment. Alors arrêtons de dire du mal de Saint-Père, arrêtons de dire du mal des prêtres, parce que si nous n'avions pas les prêtres, et actuellement ceux de notre paroisse sur Tarbes, croyez-moi, ils sont d'un soutien important, moral, hein. On peut pas vivre sans les prêtres.
Merci beaucoup Jean-Claude, et merci à votre épouse pour son enthousiasme. Merci d'avoir appelé Radio Présence pour ce beau.
Merci à vous les prêtres qui êtes présents. On est vraiment perturbés et croyez-moi, nous sommes avec vous.
Merci beaucoup Jean-Claude et Chantal d'avoir appelé. Alors on entend beaucoup de choses derrière. D'abord la disponibilité extraordinaire de ce prêtre qui accompagnait donc ce couple. J'aimerais rebondir donc sur son témoignage si ça vous va en faisant écho donc entre autres de l'affaire Barbarin. Je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à dire autour de cette affaire. Le pape s'est en effet expliqué donc de son refus de la démission du cardinal Barbarin et entre autres en pointant une condamnation médiatique superficielle. Alors, l'idée n'est pas forcément de faire le procès des médias. Moi, la question que j'avais plutôt envie de vous poser derrière, c'est l'affaire Barbarin, est-ce que vous n'avez pas l'impression que se dessine, c'est pour ce qu'on peut entendre parfois, une autre manière de gouverner dans l'Église? C'est quelque chose voilà, qui revient dans les conversations. Vous disiez tout à l'heure que le prêtre présidait, l'évêque évidemment particulièrement la communauté chrétienne d'un lieu. Est-ce que Guillaume Loz, vous dites que ça peut inaugurer une autre forme de gouvernance dans l'Église?
Ce qui est important, c'est que les chrétiens puissent vivre à fond leur vie missionnaire, et nous on est là pour les aider à être des disciples missionnaires, les aider à annoncer l'Évangile, à prendre leur place dans la société et dans l'Église. Et après, en termes de gouvernement, l'important, c'est vraiment de... Je crois que ça va nous aider, ces affaires, à et ça va aider les évêques à, comment dire, à mieux tenir compte, à ne pas étouffer des choses, à être plus juste dans le soin. Et pas, quand il y a quelqu'un qui vit des choses difficiles ou qui a des gestes terribles, à ne pas le mettre à un autre endroit, mais à prendre des mesures de prévention. Mais ce qui est difficile pour eux, c'est qu'ils doivent aussi prendre soin des prêtres et pas tout de suite. Il faut attendre la vérification des faits, pas tout de suite, parce que les gens sont mis sur le banc. Une fois qu'on est soupçonné alors qu'il y a un non-lieu, on porte à vie quelque chose de terrible. Donc c'est pas évident, parce que les évêques doivent servir leurs prêtres, ils doivent servir les fidèles. Donc après le gouvernement, c'est compliqué, hein, quel que soit celui qui a des responsabilités. Je crois que la difficulté, c'est peut-être d'entendre ce que disent les chrétiens, parce qu'ils ont plein de choses à dire. Et comment, par subsidiarité aussi, laisser faire chacun ce qui est de son ressort. L'évêque ne peut pas tout gérer, le curé ne peut pas tout gérer. Il faut bien articuler. Ça va nous aider à progresser, il faut qu'on soit davantage sain.
Voilà. Est-ce qu'Hervé Gagnard, est-ce que quand on entend dire que l'Église a un gouvernement très presbytéral, donc très masculin, est-ce que c'est raccord avec la réalité ?
En termes de gouvernement, pour être honnête, oui, je pense que c'est vrai. Le gouvernement dans les instances décisionnaires est essentiellement presbytéral et masculin. Il y a des femmes qui sont présentes, mais trop peu présentes, certainement. Je pense qu'on va vers une évolution où il y aura, dans les instances de gouvernement, dans le conseil épiscopal, par exemple, actuellement, il y a 8 personnes, il y a une femme présente. Je pense qu'un jour ou l'autre, elles seront plus nombreuses.
Est-ce que ça inaugure aussi...
Il y aura des laïcs, c'est-à-dire qu'il y aura des instances, pour être plus précis, il y aura des instances où je pense qu'il est bon que finalement, qu'il y ait des instances où les prêtres ne soient pas en position, comment dire, de risque de s'enfermer sur eux-mêmes et avec le risque d'avoir des logiques qui ne sont pas tout à fait justes, ce que le pape François appelle le cléricalisme.
Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ce cléricalisme ? Je rappelle que le pape a publié une lettre.
Le cléricalisme, c'est quand le ministère sacerdotal n'est plus au service du peuple de Dieu, mais à des logiques soit de préservation, de défense, de conservation, de souci, n'est plus au service du peuple. Donc il risque d'en être une logique de préserver une forme de pouvoir, voire des privilèges ou des choses comme ça.
Est-ce que c'est une réflexion qui traversait, on va dire, déjà l'Église ? Est-ce qu'elle est accélérée par ces crises ?
Tout à fait. C'est quelque chose qui a traversé l'Église, même de manière paradoxale. Pour moi, la crise que nous traversons, pour moi, n'est certainement pas... me fait penser à ce qu'a traversé l'Église aux alentours du XIe siècle, quand il a fallu remettre de l'ordre du côté des clercs, hein, donc au début de ce Moyen-Âge, 10e, 11e siècle, où les laïcs, où c'est le peuple qui a réclamé que, par exemple, que le célibat sacerdotal soit généralisé pour les prêtres. Il y avait une attente très très forte de ce côté-là. Et c'est le peuple aussi qui, à cette époque-là, avait réagi devant les désordres moraux des clercs.
On va prendre Louise par téléphone. Grégoire Zoppler, vous vouliez réagir peut-être à cette question de la gouvernance ? Est-ce que ça vous inspire quelque chose ou...
Non, mais il faut distinguer dans la gouvernance tout ce qui est de droit et fondé en foi, qui fait partie de la structure et de la forme que le Christ a voulu pour son Église. Et ben, les choses ne changeront pas dans ce qui appartient en propre à la mission du prêtre, hein, qui a été voulu par le bon Dieu. Mais il n'empêche que dans plein de domaines et dans plein d'aspects, dans plein de questions, évidemment, et ben il faut pouvoir changer, ne pas penser qu'on sait tout et qu'il y a des compétences au contraire qu'on n'a pas et qu'il faut pouvoir s'appuyer sur ces gens-là pour éclairer aussi le jugement des pasteurs et de travailler justement pour poser le diagnostic le plus serein et le plus juste pour le bien commun de l'Église, du coup. Donc ça, on en aura besoin de plus en plus.
C'est aussi, comme jeune prêtre, l'Église que vous appelez de vos voeux, en tout cas.
Mais non, l'Église que j'appelle de mon vœu, elle est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ et elle grandit depuis 2000 ans. Et moi, je n'ai pas à transformer l'Église ou à changer l'Église. Du coup, j'ai à accueillir... Elle me précède en quelque sorte et j'ai juste à la développer selon le projet de Dieu et pas mon projet à moi et mes petites idées.
On va prendre Louise par téléphone, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous nous appelez donc toujours pour donner quelques témoignages autour de figures de prêtres. Alors dites-nous quel était l'objet de votre appel ce matin.
Oui, bonjour. Pour donner mon humble témoignage, moi j'ai 32 ans, je suis chef d'entreprise et j'ai dans ma vie rencontré un prêtre et un cousin qui vit toujours, qui s'appelle Frère Mathieu de la communauté Saint-Jean. Et ce qui m'avait touché en fait dans la relation que j'avais avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui avait fait les mêmes études que moi, des études artistiques, et qui lui avait trouvé son aspiration à un absolu, à un idéal que peuvent avoir un peu plus les artistes. Il l'a trouvé dans sa vocation. Et donc du coup pour moi ça veut dire aussi que c'est l'importance d'avoir des gens de toutes sortes, hein, chefs d'entreprise, tout ce qu'on veut, mais qui vivent une relation au Christ et qui peuvent chacun donner un peu un visage différent de l'amour que le Christ a pour eux. Et pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est pour moi, enfin la mission de prêtre, pour moi c'est avec la grâce de Dieu, être signe et être témoin de l'amour du Christ pour tous les hommes.
Voilà, tout simplement. Bah, disons que c'est vrai qu'on comprend que ça soit une lourde charge. Mais en effet, c'est a priori ce pourquoi ils ont été ordonnés. Et puis c'est ce qu'ils nous ont dit au début de cette émission. Et merci beaucoup, Louise, d'avoir éclairé par votre témoignage cette mission qui est la leur. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause et puis on vous retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette émission. Cette émission donc de témoignage, l'occasion de dire ce que vous avez sur le cœur à propos soit de la situation actuelle, soit de dire ce qu'est pour vous le prêtre et leur rôle irremplaçable, voire de nous donner, comme l'a fait Louise, un témoignage personnel. Thank you.
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96.6. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Prêtres, ces serviteurs de Dieu, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission au cours de laquelle vous avez la parole, chers auditeurs. Vous pouvez nous appeler au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 pour nous dire ce que vous avez dans le cœur à l'égard des prêtres en cette période, avec surtout une demande ou un appel. Quel prêtre vous a marqué dans votre vie et pourquoi, puisque le propos de cette émission est d'abord d'essayer de, on va dire, de rétablir la balance et d'être plus proche de la réalité de ce qui se vit parmi les prêtres, et donc de les mettre un petit peu à l'honneur. Je voulais dans cette dernière partie d'émission qui va être plus courte, je voulais vous demander pourquoi est-ce qu'on dit que le ministère est irréversible. On sait que certains prêtres peuvent être réduits à l'état laïque, entre autres quand un prêtre a un enfant, hein, ça arrive parfois, il est reconduit à l'état laïque, mais on dit que le sacerdoce est irréversible ou irrévocable. Qu'est-ce que ça signifie? Alors je crois, Grégoire Zobler, que vous avez été désigné volontaire pour répondre à cette question difficile.
Merci, cher confrère.
Vous allez finir vicaire général, hein, je vous préviens.
Ah ben ça, tout sauf pas ça, que Dieu me réserve. Je lance un appel au vicaire général, jamais.
Moi je délègue, c'est mon métier.
Alors, pourquoi le sacerdoce est un don irréversible?
Simplement. Hein,
tout simplement parce qu'il faut se situer du côté de Dieu. Quand Dieu donne quelque chose de manière absolue, il le donne jusqu'au bout. Et les dons de Dieu sont sans repentance. Et du coup, pour lui, de son côté, c'est définitif. Il nous a appelés au sacerdoce et il nous a fait cette grâce. Là, et en nous faisant cette grâce, il imprime en nous un caractère, quand on dit dans la théologie, et ce caractère-là restera jusqu'à la mort. Tu es prêtre à jamais, tu es prêtre pour l'éternité, c'est des formules que l'on entend évidemment dans la liturgie, dans la parole de Dieu, etc., etc.
Mais, comme je vous disais pendant la pause, on pourrait dire la même chose du mariage, et pourtant il y a des mariages qui sont déclarés nuls, non?
Alors, il y a des mariages qui sont déclarés nuls parce que à la réponse de l'appel, il n'y a pas eu accueil libre au départ, du coup. Hein. Pour un prêtre, ça peut arriver. Du coup, s'il est ordonné prêtre alors qu'il n'est pas libre, hein, et ben le bon Dieu n'a pas imprimé un caractère et ne lui a pas fait cette grâce-là, parce que il ne donne jamais en violant la liberté des personnes, du coup. Et donc, dans ce cas-là, il est reconnu non ordonné prêtre. Voilà, tout simplement. Comme pour un mariage, même s'il y a quelques différences.
Donc ça ne dit pas un caractère particulier de ce sacrement de l'ordre. C'est un sacrement comme les autres.
Non, si, là.
Hervé Guignard, rétablissez et corrigez.
Compliqué.
Bon, si c'est trop compliqué, l'idée, c'est pas de faire de
non, mais peut-être quand même, il faut faire une distinction importante quand vous avez employé cette expression qui est affreuse, hein, réduit à l'état laïque, c'est quand même pas très beau. Hein, voilà, c'est en fait, en termes plus rigoureux, c'est renvoyé de l'état clérical, c'est-à-dire que un prêtre n'est plus déclaré clair, donc il reste prêtre en fait, mais il ne peut plus exercer son ministère, parce que pour exercer son ministère, ça suppose l'état clérical qui se caractérise notamment par le célibat consacré. Hein, voilà. Donc un prêtre, donc quand il est renvoyé de l'état clérical, ne peut plus exercer son ministère. Voilà. Il n'est pas réduit, mais
je vous propose
renvoyé d'un état clérical.
On va passer à un autre sujet. Mais mon intention était surtout de contribuer à essayer de cerner ce qui fait la particularité de votre vocation. Je rappelle aux auditeurs, hein, qui peuvent appeler au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 pour nous donner leur témoignage autour de des figures de prêtres que vous êtes. À cette fin d'émission, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos relations avec les fidèles laïcs. Je le disais en début d'émission, est-ce que vous avez des témoignages d'amitié, de sympathie? Est-ce qu'il ne serait pas bon de rappeler que tout le monde, enfin toute une communauté quelque part, est responsable aussi de l'engagement que vous avez pris devant Dieu, et que peut peser parfois au contraire sur vos épaules une trop grande responsabilité, voire une certaine solitude? Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Guillaume Lose?
En fait, on est prêtre au service d'un peuple. Et du coup, il y a comme une alliance entre la communauté chrétienne et le curé. Et du coup, on a besoin les uns des autres. C'est-à-dire que moi, je ne peux rien faire sans les fidèles laïcs qui s'impliquent pour plein de charges pastorales, paroissiales, l'animation des messes, la préparation du caté, l'accompagnement des familles en deuil, enfin un certain nombre de choses, et même plein d'initiatives.
Ma question, c'était davantage, en fait, vous, votre vocation à vous. Est-ce que quelque part, quand un prêtre est ordonné dans un diocèse, ensuite envoyé dans une paroisse, est-ce que tout le peuple de Dieu a pas charge de faire en sorte que vous teniez bon, donc vous entourez de leur affection, de votre alors, amour même, on peut peut-être utiliser ce mot.
Oui, alors les gens aiment les prêtres. Le but, c'est qu'ils nous... C'est-à-dire, ils prient pour nous, ça on le sait. Qui nous invite, qui nous prête soin de nous, mais ça passe aussi par une implication et à pas avoir peur de dire de quoi vous avez besoin. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. Moi, c'est vrai qu'il y a un couple ami qui m'a dit nous, on peut rien faire pour toi, mais sache que tu peux venir chez nous, même si tu as besoin juste de pleurer, de vider ton sac. Nous, on sera là pour toi, il n'y a pas de souci, quoi. Et si ce service qu'on peut rendre, on sera très heureux de le rendre. Voilà.
Est-ce que c'est pas... on pourrait dire la même chose de chaque vocation, mais c'est vrai que quand on est marié, on se dit au moins on a un conjoint à qui parler, il y a une intimité qui est une forme de consolation. Alors on imagine que quand on est prêtre, le célibat implique une certaine solitude et donc une certaine difficulté, voire un certain sacrifice que ne vivent pas d'autres états de vie. Hervé Guénière,
je distinguerai plusieurs choses parce que, pour moi, je considère... Mes souvenirs de mes premières années de prêtre, j'attendais pas forcément des laïcs qui viennent me consoler ou qui viennent... D'abord, c'était la conviction qu'on avait une mission à vivre ensemble. Hein, quand on est dans une paroisse, on a une mission à vivre ensemble. Donc, il y a d'abord tout un agir, tout un faire, je dirais, et dans laquelle le prêtre a sa place spécifique. Et pour moi, les fidèles... attendent de nous qu'on exerce notre ministère de prêtre, hein, donc celui de la célébration, celui de la prédication, de l'enseignement, de l'accompagnement spirituel. Il y a d'abord tout un agir et c'est un agir commun, où chacun doit tenir sa place et où d'ailleurs, enfin, je me souviens quand j'étais curé, mais même vicaire général, j'apprécie plutôt que les laïcs me fassent quelques critiques sur ma manière de faire et pour que je pense que c'est une manière, par exemple, de tenir sa place. Après, tout ce qui concerne la vie personnelle, je dirais la vie affective, enfin tout ce qui est le problème de la solitude, tout ça, c'est encore autre chose. C'est pas les paroissiens sont pas des amis. Hein. Je pense que, enfin pour moi, je fais une distinction. Hein? Mais un prêtre, la solitude d'abord, je pense que c'est une bonne chose. Dans le célibat, elle est plus importante, mais chacun plus ou moins est seul, hein, dans sa vie, on doit assumer une forme de solitude. Ce qui est dramatique peut-être, c'est plutôt l'isolement, c'est-à-dire l'absence de relation. Et enfin, moi, j'ai toujours mesuré l'importance, au fur et à mesure du ministère, il y a des relations amicales qui se construisent, mais c'est pas exactement les paroissiens. C'est des couples qu'on a mariés, c'est des couples de mon équipe Notre-Dame, par exemple, c'est des amis d'enfance, c'est des membres de la famille aussi, enfin, c'est tout ça, c'est des relations personnelles, mais qui sont pas exactement au même niveau.
Eh ben merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église ce matin pour avoir la simplicité de partager tout cela. Pardon à Axel de Colomiers qui nous a appelé, mais j'ai eu le mot sur la fin de l'émission et en l'occurrence c'était un petit peu trop tard. Merci en tout cas à tous les éditeurs d'avoir appelé et répondu généreusement à notre appel. Merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.